bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau volet des chiffres et des films, votre rendez-vous qui allie sous-sous et historique de production pour vous conter les récits de nombreux longs métrages au fil des décennies. Salut Colin!
Bonjour, bonjour. Alors, à tous.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Oh, ça va. un petit peu malade, mais ça va. Je suis content d'être là quand même pour parler.
Faut dire que la météo n'aide pas trop en ce moment.
Non,
pluie,
vrai.
Vent, fraîcheur. Mais on va parler cinéma, donc ça va nous faire du bien.
Exactement.
Te faire du bien.
Exactement, tout à fait.
Et surtout que c'est déjà la troisième fois que nous nous réunissons tous les deux et que nous vous proposons déjà, chers auditeurs, une émission spéciale. Et oui, à l'occasion de la 40e édition du BD Boom, festival de bande dessinée de Blois, et qui se déroulera du 17 au 19 novembre prochain, nous avons décidé avec Colin de faire un petit détour du côté des planches et des bulles dessinées, et plus précisément un héros de notre enfance qui a connu bon nombre d'adaptations, que ce soit au cinéma, en dessin animé, jeux vidéo, et j'en passe pour les autres supports. Astérix? Tintin? Bah non, pas du tout, plutôt un cow-boy solitaire loin de chez lui et qui tire plus vite que son ombre. Je pense qu'avec ce descriptif, vous aurez très vite reconnu de qui il s'agit.
Clint Eastwood. Pour citer une vanne dans un des films. Pardon.
On s'aurait pu, mais on restera très Lucky Luke.
Lucky Luke, bien sûr.
Et pour cette occasion, nous lui adressons, pour le coup, deux émissions à part entière.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de films à aborder, même si tu te compares avec Astérix, il est quand même bien en dessous en termes des adaptations cinématographiques.
Pas qu'un peu. Parce que c'est vrai qu'en termes de films live, on en est à Astérix, on en est à quoi ? 5 ?
On a 5 films live, on a une dizaine de films d'animation. Mmh. Lucky Luke, c'est, le chiffre est bien moins nombreux, parce qu'on en est à 3-4 films live, on va dire, 3,5, on va dire. Et on est à, ouais, à film d'animation, on en est à 4, ouais, 4 aussi, un truc comme ça.
Il faut dire que la renommée n'est pas la même qu'Astérix, du moins en salle. C'est justement pour cette raison que nous faisons cette émission, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de commencer, je me tourne vers toi, Colin, avec une question que beaucoup peuvent déjà se poser. Qui est donc Lucky Luke ?
Ah bah alors, Lucky Luke. Du coup, c'est un personnage qui a été créé d'abord par Maurice, en fait. C'est qu'on associe beaucoup Lucky Luke à Maurice et Goscinny, mais c'est d'abord une création de Maurice. Le cowboy solitaire a droit déjà à des petits comic trips, des petites histoires dessinées par Maurice. Goscinny arrivera un peu plus tard, donc c'est pas lui qui a créé le personnage, contrairement à Astérix, par exemple.
Pour te situer, et pour situer tout le monde, nous sommes dans les années 40.
Oui.
Je crois que ça avait même commencé dans le journal de Spirou vers 1946.
Exactement. Et donc voilà, Goscinny arrive pour un peu étoffer le monde de l'univers de ce du monde de Lucky Luke
dans les années 50.
Voilà. Et donc voilà, Goscinny le rejoindra et donc c'est à partir de ce moment-là que Lucky Luke prendra vraiment de son ampleur et de sa renommée. Et donc qui est Lucky Luke pour le personnage? Bah Lucky Luke c'est The Lonesome Cowboy, donc c'est le cowboy solitaire qui en fait voyage dans l'Ouest et en fait c'est lui qui vient au personnage en fait. Donc selon ce qu'il traverse, il va rencontrer plusieurs personnes, plusieurs problèmes et il va essayer de les résoudre à la fin de chaque album jusqu'à repartir poursuivre sa route à la fin de chaque bande dessinée.
Et en rencontrant des personnages historiques célèbres.
En fait, t'es quasiment tous. Les personnages que croise Lucky Luke sont des personnages qui ont vraiment existé dans l'histoire de l'Ouest. Et donc, même dans les plus célèbres. On peut parler des Dalton, parce que de toute façon, on va en parler de pas mal aussi, de ces personnages-là.
Surtout que je voulais rebondir là-dessus, parce que Goscinny est arrivé dans les années 50 et il avait apporté quelque chose également à la BD. Il avait donné naissance à beaucoup de personnages, dont les Dalton. Alors, les Dalton avaient déjà été utilisés par Maurice dans une de ses précédentes aventures de Lucky Luke, et les personnages étaient tués. Ils étaient tués parce que c'était un peu plus sombre ce que faisait Maurice avant l'arrivée de Goscinny, et c'était une des demandes de Maurice à Goscinny, c'était « Ressuscite-moi les Dalton ». Et ils sont réapparus dans l'album Les Cousins Dalton. Et c'était parti sur l'idée que non, je ne peux pas ressusciter Dalton, on va leur faire des cousins. Donc ce n'est pas vraiment les Dalton qu'on voit depuis ce moment-là.
D'accord. Mais tu sais pourquoi tu me l'apprends, tu vois.
Et bien sûr, Goscinny, on lui doit également Rent en plan.
Oui.
Qui est également culte dans la bande dessinée. Le Lonesome Cowboy, justement, parce qu'il avait déjà été utilisé par Maurice avant, mais pas comme bulle de fin. Comme vignette de fin. C'est lui qui l'a donné l'idée à Maurice de l'utiliser à la manière du banquet final dans Astérix.
Mais en fait, tu retrouves plein de choses. Même tu prends le personnage d'Avrel, tu sens qu'on est dans une création de Goscinny. Ça, il y a quand même des filiations, et même Lucky Luke. Hein, moi, je trouve que Lucky Luke, il a vraiment un aspect assez Astérix dans sa personnalité, notamment son jeu de la malice et le fait qu'il a toujours un coup d'avance avant tout le monde. Bon, l'homme qui tire plus vite que son ombre, bien sûr, mais c'est aussi apprendre au figuré, l'homme qui tire plus vite que son ombre. C'est aussi voilà, quelqu'un qui, de toute façon, peu importe ce que fera le méchant, Lucky Luke, il l'avait déjà compris bien avant. Et il a déjà trouvé un moyen de le déjouer, même s'il ne le montre pas tout de suite. Voilà. Et Astérix avait ça, aussi un peu ce côté-là. Ça serait un personnage moins expressif, faut dire peut-être, que Astérix, si je dois un peu comparer les deux. C'est quelqu'un qui a une certaine flegme, mais pas que, aussi, qui peut aussi avoir certains moments où il s'emporte, mais c'est toujours par petites touches. Et donc, voilà, c'est en ça que ça fait un personnage très attachant, parce que c'est quelqu'un qui respire une certaine bonté, mais en même temps, qui a une personnalité. Comment dire, c'est pas un personnage vaniteux, prétentieux. C'est quelqu'un qui peut être aussi assez vite dans les BD, on le voit, pas très pris au sérieux au premier abord. Et c'est une fois qu'il prouve ce qu'il est capable de faire qu'il arrive à convaincre les autres.
Je pense son caractère très en retrait et également son physique. Hein,
Ouais.
c'est une
Mais c'est ça, c'est
brindille,
une
le gars.
brindille. Et bah oui, c'est ça qui est souvent référencé dans la BD par ses ennemis. C'est que voilà, au final, il paye pas de mine, c'est une petite brindille. Et il est assez. Il contrebalance assez, en fait, de l'image. En tout cas physiquement, des cow-boys qu'on peut avoir dans les westerns américains. Et en même temps, il y a beaucoup d'inspiration. On peut pas dire qu'on retrouve pas de John Wayne dans Lucky Luke, on le retrouve. Mais physiquement, il y a un truc déjà qui dénote et qui est déjà ce que vous avez fait Goscinny sur Astérix. Où il voulait justement, c'était une dispute d'ailleurs avec Uderzo, il n'était pas d'accord. Il voulait absolument que son héros soit tout petit comme ça, qu'il n'ait pas le physique d'un super-héros. Uderzo n'était pas tout à fait d'accord avec ça, et c'est finalement Goscinny qui va l'emporter. Et donc il aime bien faire ça, Goscinny. Jouer physiquement, déjouer les attentes, voilà, par un physique précis du personnage. Voilà. Donc c'est en ça qu'on peut retrouver la patte de Goscinny quand Goscinny arrive sur Lucky Luke. Ouais.
Malheureusement, jusqu'à son décès, à Goscinny, parce qu'il était mort en 1977,
ouais.
Ce qui n'a pas empêché Maurice de continuer l'aventure. Il avait appelé divers scénaristes hein, pour sortir de nouveaux albums jusqu'à son décès en 2001.
Ouais.
Mais mine de rien, Lucky Luke continue encore aujourd'hui. On a, comme Astérix en ce moment, on a eu divers scénaristes, divers auteurs qui ont enchaîné. On a eu Laurent Gérard un temps.
Exactement, des sûr. Mais Laurent Gérard sur la grosse partie des années 2000. Hein.
Tout à
il a,
fait.
Il a, il a, il a fait 4 albums, si ma mémoire est bonne. Mais ouais, on oublie de le dire, mais Laurent Gérard, oui, il s'est approprié Lucky Luke sur pas mal d'albums. Donc il fait partie de la relève. Une des premières relèves d'ailleurs après Maurice.
Et pour le coup, comme nous le disions justement en préambule de cette émission, Lucky Luke et le cinéma. Bah, c'est également une relation, un poil compliquée,
oui,
mais
alors,
une relation tout de même.
C'est une relation bordélique, on va pas se mentir, mais on va y revenir point par point.
Bah, justement, on peut déjà commencer, parce que, bon, adaptation de bande dessinée, on pense à quoi directement, je pense? Dessin animé, film d'animation.
Oui.
On va dire que tout a commencé en 1971 avec un dessin animé qui s'appelle tout bonnement Lucky Luke.
Oui. Alors oui,
justement pour le titre.
Voilà, le titre c'est un peu compliqué.
Au début, ça s'appelait Lucky Luke.
Voilà.
On va
ouais,
en revenir
en fait,
dessus.
Le titre a oui, on peut vite expliquer pourquoi le titre.
Oh, bah, alors, allons-y, allez.
Le titre a changé parce que la BD il y a une BD adaptée du dessin animé qui apparaîtra dans les années 80, en 83, et la BD s'appellera Daisy Town.
Tout simplement, le nom de la ville où se passe l'aventure de ce
voilà.
dessin animé.
Qui deviendra une ville assez célèbre dans l'univers de Lucky Luke, même dans ses adaptations, qui en feront souvent référence, on va en reparler de toute façon. Et donc, voilà, à partir de là, du coup, quand le film est ressorti en VHS, DVD, passage télé, eh ben, il a été du coup mis aligné avec le titre de la BD, donc qui s'appelle maintenant Lucky Luke, 2. Daisy Town. Voilà.
Voilà, réalisé par Maurice et Goscinny eux-mêmes, via le studio d'animation Belle Vision. Comme tu disais, une histoire originale de Lucky Luke qui devient le shérif d'une toute nouvelle ville de pionniers et qui attire les hors-la-loi de toutes parts, dont les fameux Dalton. Dès lors, on y trouvera déjà beaucoup de doubleurs récurrents dans l'univers Lucky Luke. On aura Pierre Trabot, Jacques Balutin et Pierre Tornade qui reviendront souvent pour faire une partie des frères Dalton, hein, Joe, oui. William et Avrel.
Pas compliqué, hein, on a toute l'équipe du cinéma, du doublage de cinéma d'animation ou de dessin animé des années 70-80. On a vraiment tout le casting.
On a Roger Carrel, Rinaldi...
Gérard Hernandez, je me demande s'il n'est pas dedans aussi.
Je ne l'ai pas vu Hernandez, je sais qu'il reviendra plus tard. Mais
quand Roger Carrel est là, Gérard Hernandez n'est pas très loin.
Il y a tous les potes. Hein. Voilà. Il y a tous les potes du Muppet Show. Là.
C'est un peu ça, c'est un peu l'équipe du Muppet Show.
Micheline Dax et tout.
Exactement, Micheline Dax, Perrette Pradier, enfin voilà, il y a toute l'équipe.
Et on commence du coup avec un succès, hein, mine de rien. Ouais. 2,7 millions d'entrées. Bon, on va être sur des vieux films, on n'a pas les budgets, on n'a malheureusement pas toutes les infos, mais je pense que déjà de dire 2,7 millions d'entrées, c'est déjà pas mal.
Oui, en France, à cette époque-là, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, c'est à nouveau Goscinny qui se met à réaliser un film après Astérix et Cléopâtre. Et donc, Goscinny se réattaque à nouveau à la réalisation d'un film adapté d'une de ses BD, alors cette fois pas avec Uderzo bien sûr, hein, mais avec Maurice.
Ou l'infidélité.
Bah non, il collabore avec celui, il prend la même équipe que la BD tout simplement.
On va faire un petit bond dans le temps, hein. 1978, où là nous avons un nouveau film d'animation qui est fait cette fois-ci via le studio Idéfix que Goscinny avait créé pour Les 12 Travaux d'Astérix. Nous avons La Balade des Dalton.
Ouais. Très franchement, on peut le dire maintenant, je pense que c'est le meilleur film Lucky Luke, tout confondu, je pense.
Bah, déjà plus de moyens, je pense, que par rapport à des E-Town.
Clairement, et on retrouve, tu m'en parlais en off, donc je vais te piquer ta réflexion avant que tu la dises. Mais,
vas-y. La prochaine fois, je pose un brevet.
mais oui, tu m'avais dit à juste titre que le film est un miroir, en tout cas, à des ressemblances avec Les 12 Travaux, réalisés également par Goscinny.
Pas qu'un peu dans sa structure narrative du chemin que doivent emprunter les personnages principaux, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B avec diverses petites rencontres. On a le passage musical qu'on avait dans Les 12 Travaux aussi.
Ouais, qui est super, vraiment. Moi, je préfère encore dans celui-là parce que voilà, si on peut dire aussi rapidement ce qu'on pense des films, hein, je trouve que c'est un passage où vraiment il s'éclate. Il s'en donne à cœur joie avec les Dalton, qui de toute façon, les Dalton dans ce film piquent complètement la vedette à Lucky Luke. Hein. Dans ce film-là, vraiment, les Dalton sont la vedette du film. Et en termes d'animation, ils se font plaisir, mais à tous les niveaux. Quoi.
Oui, parce que je trouvais justement mieux travaillé en termes d'animation que les 12 Travaux.
Oui, exactement.
Beaucoup
tout à fait.
Plus fluide, beaucoup plus détaillé.
Et c'est en ça que ce film me frustre un peu, parce que voilà, on l'a dit, hein, Goscinny meurt en 78, et en fait... Il meurt après une réunion de travail sur la balade des Dalton qui était en train de se boucler, qui était quasi terminée. Il travaillait justement sur un passage de cette séquence musicale où il danse sur Sing in the Rain, où Joe danse Sing in the Rain. Et il est en train de finaliser les derniers choix artistiques sur cette séquence-là. Et il meurt peu de temps après d'une crise cardiaque. Et donc cette réunion de travail a été enregistrée à l'époque. Et donc, c'est les dernières paroles qu'on entend de Goscinny quelques heures avant sa mort. Paroles qui avaient été mises à une exposition sur Goscinny à cette occasion-là, qui avait été diffusée à cette occasion-là. Donc, ça fait toujours un peu bizarre quand on entend les dernières paroles de quelqu'un quand tu sais qu'il meurt quelques heures plus tard. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'est un truc qui me frustre beaucoup. Je voulais en venir là. Parce que je pense que Goscinny aurait pu être un grand réalisateur de cinéma d'animation.
C'était son envie.
Et c'était son
justement
envie.
Avec l'ambition de créer le studio Idéfix, c'était d'avoir le Walt Disney français.
Il s'y dirigeait, hein, clairement, parce que je trouve qu'il s'améliorait de film en film. Et la balade les Dalton le montre, et surtout, c'était quelqu'un qui avait le sens du cinéma. C'est-à-dire qu'il savait différencier la BD du cinéma d'animation. Il savait comment adapter des gags par le langage du cinéma. Il le fait dès le début de la BD des Dalton. Il le faisait déjà beaucoup dans ses Astérix. On peut dire qu'il aurait continué là. Donc c'est très frustrant parce qu'on... Goscinny a le nom d'un grand auteur de bande dessinée. Il aurait pu avoir le nom d'un grand réalisateur de cinéma d'animation et on a loupé quelque chose, je pense, avec la mort de Goscinny prématurée.
Pas qu'un peu.
Voilà.
Bon, en tout cas, la balade des Dalton, ça a fait 1,4 million d'entrées.
Un peu moins que des
E-Town. Ça reste pas mal, mais encore une fois, sous réserve d'avoir le budget.
Et déjà, on voit l'importance des Dalton, j'ai envie de te dire. On va en parler de toute façon au fur et à mesure de l'émission, mais on voit déjà que les Dalton vont être de toute façon extrêmement présents chez Lucky Luke, mais en particulièrement dans ses adaptations. Il n'y a qu'une seule adaptation cinéma où les Dalton n'apparaissent pas.
Ça, on y reviendra.
Voilà, ouais. On y reviendra. C'est pas la meilleure, d'ailleurs. on pourrait dire, la balade Dalton le montre, hein, que c'est des personnages qui vont être plus célèbres que Lucky Luke, en fait. Que les gens vont encore plus aimer voir à l'écran que lui, parce que Lucky Luke, c'est bien, c'est un héros, il a une flegme et tout, mais les Dalton,
ils ont plus de personnalité.
Ils ont plus de personnalité, et quand je dis les Dalton, on pense surtout à deux, hein, on pense à Joe et on pense à Avrel. William et Jax, mais c'est même traité hein, dans la BD, hein, sont un peu invisibles.
Du calme, Joe,
voilà. Ils disent assez peu de répliques, mais c'est traité eux-mêmes par la BD. Et donc voilà, on a ces personnages-là qui apparaissent pas pour la première fois. Hein, dans Des Eaton, ils étaient aussi pas mal présents, mais ils apparaissent que dans le deuxième tiers du film, à peu près. Dès la balade des Dalton, on sent que c'est des personnages qui vont prendre de l'envergure, en tout cas. C'est des personnages qui intéressent énormément leurs auteurs et ceux qui vont les adapter ensuite.
Justement, ça fait une petite transition avec le dessin animé suivant. Alors, bien sûr, le décès de Goscinny a fait fermer les portes au studio Idéfix. De son côté, Maurice a dû chercher un nouveau collaborateur aussi bien pour bande dessinée que pour les dessins animés. Et en 1983, on a du coup un nouveau film d'animation qui sort, qui s'appelle, et c'est pour ça que je faisais la transition, Les Dalton en cavale. Alors, un dessin animé qui sort un peu du lot, car il ne s'agit pas d'une œuvre originale à proprement parler, mais une compilation. Plutôt.
Oui. C'est en fait, alors du coup, pour refaire un peu l'historique, Goscinny meurt, donc Maurice continue, et il aimerait continuer l'exploitation de Lucky Luke. En dessin animé. Mais à partir de là, les studios Idéfix ont fermé, donc il va répondre à la demande des studios américains bien célèbres qui s'appellent les studios Hanna-Barbera, à qui on doit Tom et Jerry, Scooby-Doo,
les pierres à feu,
les fous du volant. Voilà, des studios importants dans les séries d'animation à l'époque. Donc Lucky Luke va se faire là-dessus. C'est pas complètement étonnant. Lucky Luke se passe aux États-Unis, raconte une partie ou se moque une partie de l'histoire des États-Unis, parce que Lucky Luke ne pourrait pas avoir la tête qu'il a s'il avait été fait par des auteurs américains. Clairement, on est sur un recul d'une vision européenne de comment s'est construit les États-Unis. On s'est dit que ça va quand même parler aux studios américains, donc il va y avoir alliance entre une production franco-américaine qui va donner lieu à une série d'animation Lucky Luke qui adapte les BD, les tomes, vraiment.
C'est un épisode d'une bande dessinée, un peu comme le Tintin qu'il y aura plus tard sur France 3.
Exactement, mais le Tintin qu'il y aura plus tard sur
FR3, ouais.
sera, à mon sens, plus fidèle, parce que moins de concessions, parce que voilà, c'est un peu le problème qu'il va y avoir, c'est Hanna-Barbera va demander quand même beaucoup de choses à Maurice pour que le projet se fasse. Enlever certaines choses ou alléger certaines choses, mais le changement le plus célèbre étant remplacer la cigarette de Lucky Luke, la roulée hein, de Lucky Luke même.
Et justement, le fait qu'il ait arrêté de fumer, ça sera pas mal repris dans les prochains films,
oui.
Et même jusqu'au générique de fin. Je ne sais pas si tu as regardé, mais à chaque fois, ils te disent « Lucky Luke a arrêté de fumer en 1983, justement.
Ah, oui.
Il a réussi. » Que ce soit dans les dernières adaptations, on a vraiment ce petit message à la fin.
Ah, oui,
c'est génial.
Et donc voilà, la cigarette est remplacée du coup par un brin de paille, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Notamment, on va demander que les origines ethniques différentes soient... c'est supprimé, donc notamment le blanchisseur asiatique, ça se vire, etc. Et donc ça sera léger sur plein de points, et même au niveau du rythme, clairement, on sent qu'il y a quand même Goscinny qui est plus là. Hein. Moi, c'est une série que j'aime plutôt bien. Hein. Il y a une bonne ambiance, mais c'est un peu vieilli, c'est un peu lent. Il y a une rythmique, il y a quelque chose qui était présent dans des adaptations différentes et qui était présent dans les BD que tu retrouves pas vraiment dans la série animée. Et donc le film est donc l'adaptation de 3 épisodes de la série animée.
Une compilation, voilà, il en regroupe 3.
Voilà, il en regroupe 3 épisodes qui partent des Dalton. Je trouve qu'ils sont pas mal choisis, les épisodes, pour le coup. Ils s'enchaînent assez bien. Mais voilà, c'est compliqué de parler d'un vrai film original parce que C'est une qualité télé en plus en termes d'animation. Il n'y a pas eu des forfaits. Il n'y a pas eu une volonté de rajouter une scène inédite dedans. Enfin, non. Le générique, c'est le générique du dessin animé. Enfin, c'est assez feignant même, hein, vraiment, je trouve. Hein.
Je pense que les spectateurs ne se sont pas fait avoir à l'époque, parce que là, on enregistre une sacrée baisse en termes de box-office, hein, 619 000 entrées.
Ouais, et puis c'est un film d'ailleurs qui est même très peu édité encore aujourd'hui. Vu que la série animée est éditée, les épisodes sont présents dans la série. Hein. Donc voilà, du coup, c'est pas un film qu'on a vraiment édité.
Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la loi. Car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Quatre bandits assoiffés de richesses distillent un plan que le crime jalonne pour hériter d'un oncle mis en caisse. C'est la balade des Dalton. Ainsi finit des Dalton la balade. Le quatuor se repose en prison, rêvant de coups, de vol et d'embuscade, en attendant la prochaine évasion. Petits et grands qui avaient de l'estime pour les brigands, les coquins, les filous. Si vous voulez réussir dans le crime, soyez d'abord très rapide aussi court. Soyez d'abord très rapide aussi court.
Pour l'instant, on va faire une petite pause en question animation, parce que également Lucky Luke, on a eu à ce moment-là quelques adaptations live.
Ça commence.
Oui. Mais on revient en 1971, on va l'évoquer rapidement, parce que là, il n'y a pas vraiment Lucky Luke. Hein. Alors, c'est un film qui s'appelle Le Juge, donc qui adapte une des bandes dessinées, hein, Le Juge, qui avait été écrit par Goscinny et dessiné par Maurice. Un film de Jean Giraud. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est la franchise avec Louis de Funès du Gendarme de Saint-Tropez.
C'est en général, de toute façon...
C'est son gros film.
Ouais, et puis c'est le réalisateur de Louis de Funès, hein, beaucoup, hein, avec Gérard Houry aussi. Mais il fera tourner énormément Louis de Funès, vraiment. Dans beaucoup, ils vont mourir d'ailleurs avec assez peu de temps, d'écart.
Pas de Louis de Funès dans ce film-là, on a Pierre Perret et Robert Hossein. Mais c'est là aussi où il y a quand même une particularité non négligeable. Lucky Luke est absent.
Oui, voilà, c'est adapté d'une bande, la bande dessinée Le Juge, qui en fait parle du juge Roy Bean, qui est un, on l'a dit tout à l'heure, Lucky Luke s'inspire de vraies personnes, mais le personnage de Roy Bean a vraiment existé. Et un juge qui faisait des jugements très arbitraires, on peut dire ça comme ça.
Il a éternué $50 d'amende.
Voilà, c'est ça. Qui jugeait très rapidement les gens. Il était assez célèbre là-dessus. Donc le film, en fait, parce qu'il y aura d'autres films qui parleront du juge Roy Bean. Donc je sais pas s'il n'y a pas de Lucky Luke parce qu'il voulait faire un film sur le juge Roy Bean.
Ou une question de droit, peut-être.
Et qui sont partis d'un support qui avait été fait. Et peut-être aussi une question de droit, ouais.
Mais on n'en sait pas plus. C'est un film qui est assez brumeux dans le sens où on ne le trouve pas facilement. Il est sur YouTube, mais dans une version...
Déjà de basse qualité,
très basse qualité. Et c'est un film, il faut savoir, c'est une production franco-italienne. On a le film en version italienne.
Oui, je pense que les versions françaises existent, forcément. Les acteurs principaux sont français, Pierre Perret et Robert Hossein. Ça se voit qu'ils parlent français dans le film, parce que le film est doublé, clairement.
Surtout qu'à un moment, il y a un passage où ils jouent à la roulette. Et de temps en temps, on entend le croupier qui n'est pas doublé en italien, on entend parler français de temps en temps.
D'accord. Pour dire, la version française est introuvable du film. C'est un film vraiment, c'est une rareté. Mais qui a le mérite d'exister, qui est la première du coup adaptation live d'un album de Lucky Luke.
Mais pour le coup, la première apparition live du héros, ça sera 20 ans après, en 1991, dans un film qui s'appelle aussi tout simplement Lucky Luke, réalisé par Terence Hill.
Qui est en fait un remake de des Eton, on peut le dire comme ça. Hein.
Tous, oui, exactement, c'est la même histoire, les mêmes gags, les mêmes péripéties.
Même péripéties, vu que des Eton n'est pas un album et un film, bah on peut parler de remake live, hein, quelque part.
Et qu'en penses-tu de ce Lucky Luke, on va dire, made in Terence Hill? Parce que Terence Hill, c'est un acteur qui était connu pour former un duo avec Bud Spencer.
Ouais, alors pas que, hein. C'est-à-dire qu'il était connu pour Bud Spencer.
Il avait fait quelques aussi westerns avant.
Il y a des films avec Terence Hill qui sont, où il n'y a que Terence Hill, qui sont des films occultes, et le plus connu d'entre eux est Mon nom est personne, qui déjà, à mon sens, c'est déjà Lucky Luke. Mon nom est personne. Regardez le film, c'est... on est clairement dans l'ambiance de Lucky Luke, il y a un humour qui fait assez BD, assez western, et donc c'est pas étonnant qu'on le retrouve à faire qu'on le retrouve à réaliser Lucky Luke. Il a réalisé des films aussi, hein, Terence Hill, c'est pas son seul film, hein. Et qui sera ça sera beaucoup des westerns, et c'est pas étonnant, et moi je l'aime vraiment bien. Celui qui lutte sincèrement.
Ah ben, il dégage une bonne vibe, ouais. Une certaine énergie. Bon, il y a des petits détails, on pourrait pester dessus. Si on est vraiment accro au personnage de Lucky Luke, d'avoir un Lucky Luke blond.
Bah blond, il n'a pas son costume de la BD. Les Dalton, on ne cherche pas à les faire ressembler à fond au personnage de la BD. Il cherche à garder ce côté escalier un peu, mais...
Mais en vrai, c'est compliqué. Hein.
Et donc voilà, ça reprend pas les codes visuels. Quelque part, ça adapte pas vraiment Maurice, en fait, du coup. Mais... Parce que voilà, visuellement, le film n'est pas fidèle, c'est vrai. Si on s'ancre vraiment sur le côté visuel, les codes visuels de Lucky Luke, il les reprend pas.
Bah, c'est pour ça que je parlais de sa collaboration avec Bud Spencer, parce qu'en voyant le film, on a ce côté un peu castagne.
Un peu.
Allez, ouais. Hop, je te passe par la fenêtre au ralenti. On l'a pas mal d'ailleurs, ça, au début, oui. Pendant des scènes de bagarre.
Ça marche, hein, dans l'ambiance de Lucky
Luke. Mais
Lucky,
ça marche assez bien.
Parce qu'on a ça, c'est des bagarres de saloon, il y en a plein dans Lucky Luke. Hein, mais voilà.
Ils vont là.
Voilà, je veux dire, c'est pas bruyant comme ça l'était pour Le Juge, par exemple, où je trouvais que c'était un film. Qui faisait beaucoup de bruit, je trouve. Les acteurs criaient beaucoup.
Là, il est reproché à Lucky Luke de pas trop parler, justement.
Mais après, Lucky Luke, c'est pas un personnage qui parle beaucoup, hein, de toute façon.
Bah justement, et... son fameux web.
Ouais, c'est ça, son fameux web. Et donc là, il le fait, le web, mais il le fait de toute façon nickel, en plus, je trouve, dans celui-là. Et ouais, moi, je retrouve Lucky Luke de la BD. Alors, je sais que t'es pas tout à fait d'accord. Mais moi, c'est, en tout cas, c'est celui en adaptation live. C'est le premier dont on parle. Mais c'est une situation live où je retrouve le plus Lucky Luke, dans son ambiance, dans certains de ses gags, dans le personnage, enfin voilà.
Alors moi je trouvais justement, tu viens de le dire, qu'on ne retrouvait pas totalement le personnage de la BD, en tout cas personnellement, parce qu'il y a ce côté un peu romance qui n'aboutait pas, mais de voir Lucky Luke dans une romance, déjà j'ai du mal à le concevoir.
Ouais, mais c'est pas assumé complètement comme une romance, et ça passe, je trouve.
Mais tu le vois quand même dans le regard et tout, et encore une fois, Lucky Luke blond, moi ça m'a un peu sorti un peu du truc.
Moi, gamin, je n'aimais pas du tout le film pour cette raison. Je me rappelle, j'avais vu gamin, j'avais dit c'est
pas
Lucky Luke.
Dis que je suis un grand gamin, vas-y.
Non, mais c'est peut-être quand on le voit pour la première fois. Du coup, moi, et quand j'ai revu le film, je l'avais en tête et j'avais déjà ce blocage dans ma tête. Je me dis, oui, bon, Lucky Luke est blond. Donc, je pense une fois que tu te l'enlèves de la tête, trouve que
ça
on
passe
voit
très
Lucky
bien.
Luke après quoi.
Ça passe très bien. Franchement, on s'amuse bien.
Et je préfère largement ça en fait. Hein.
C'est gentil et pas prise de tête. Franchement.
Ouais, je trouve que ça reprend bien l'histoire des Eton. C'est assez fidèle. On va, tout en apportant quelques trucs différents, notamment sur l'introduction des Dalton, parce qu'on ne l'a pas trop dit, mais des Eton, il fait un peu office d'épisode 0 dans l'univers de Lucky Luke. Qu'ils ne font pas vraiment dans le film.
C'est le cas de le dire, parce que mine de rien, ce film, il a quand même assez bien fonctionné en France. 1,1 million d'entrées. Donc c'est quand même mieux que les Dalton en cavale. Mais il faut savoir aussi que c'était... Tu parlais d'épisode 0, on va dire que c'est quand même le film qui a lancé une série italienne.
Oui. Ouais, ouais.
En 8 épisodes, une saison de 8 épisodes.
Oui, alors bon, on parle parce que moi j'ai vu le premier épisode qui a l'air de reprendre des scènes clairement du film. Alors je sais pas comment on a fait, j'ai pas vu la suite, donc je veux pas en parler, mais le premier épisode c'est un peu ça. Donc je sais pas, est-ce que c'est le premier épisode qui réintroduit le truc et après il y a une suite, c'est possible. Mais voilà.
J'ai une petite anecdote pour toi quand même pour le doublage français. Entre le film et la série, c'est pas du tout les mêmes doubleurs, bon, à part pour le personnage de Lucky Luke. Mais du coup, pour Joe Dalton, qui est interprété par Ron Carey, alors, dans le film, c'était Jack Dinham qui le faisait, mais dans le film, c'est Pierre Trabeau, le Joe Dalton des dessins animés d'avant.
Oui.
Moi, je trouvais ça sympa.
Ouais, ouais, qui est un super Joe Dalton, d'ailleurs, Pierre Trabeau. C'est cool de l'avoir appelé pour ça, pour la version live. Mais vraiment, aller voir le Lucky Luke de Terence Hill, c'est... si vous êtes en manque d'une bonne adaptation de la vie de Lucky Luke, franchement, vous allez vous consoler un petit peu avec celle-là, quoi. Voilà.
Pouf, sacré tour d'horizon, mon cher Colin.
Ouais, ça fait... Ouais.
Mais maintenant, il est temps de revenir aux affaires. Au but même de notre émission, à notre ligne directrice. On va se concentrer pour le coup sur les trois dernières adaptations cinématographiques de la bande dessinée qui se sont avérées être des échecs commerciaux plutôt cuisants.
Ouais.
Nous ne pourrons pas tout traiter aujourd'hui même, nous en gardons justement sous le coude pour la seconde partie de cette émission spéciale, mais pour le coup nous allons tout de même entamer le sujet avec les Dalton.
Ah, les Dalton. En vrai, je suis un peu content de parler de ce film.
Oh là là. Alors, de l'avoir revu moi personnellement, beaucoup... non
mais... Non, mais pas forcément pour parler des qualités, mais il y a beaucoup de choses à dire.
Déjà, pour présenter le film, alors, Les Dalton, film réalisé par Philippe Haïm, Eric M. Ramsey dans les rôles de Joe et Avril Dalton. On a également d'autres têtes connues au casting. Marthe Villalonga.
Emma Dalton, ouais.
C'est génial. Sylvie Joly, Elie Semoun, Jean Benguigui, Cadmirad, Darry voilà. Cole, Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Michel Muller.
Michel Muller, vous vous rappelez de Michel Muller?
À l'époque de... Ah, c'était Wasabi.
Ouais, il y a eu Wasabi, mais il avait fait des spectacles un peu connus. Michel Muller, qui est une tête des débuts 2000, fin 90, et qui a complètement disparu des radars. Voilà.
Un Allemand dans le rôle de Lucky Luke.
Til Schweiger, que vous avez vu dans Inglourious Basterds.
Pas oublier non plus aussi qu'on a quand même deux voix. On a Jean Rochefort pour Jolly et Jumper et Eric Métayer pour Entemplan.
En vrai, quand tu dis ça quand même, tu dis il y a du monde, il y a des gens. Je veux dire, il y a des bonnes idées de casting déjà quand tu dis un peu sur certaines personnes en tout cas, tu vois.
Et on y reviendra justement dans la critique, mais déjà, Ramsey en Avrel...
Ça paraît une évidence, en vrai.
C'est une évidence. Quand on le reprend, justement, dans son rôle de la série H, qui est exactement le même style de personnage.
C'est ça. Et même...
Benet, gentillet.
Exactement. Et même physiquement, ça fonctionne, quoi.
Grand,
barbu, mince, tu vois. C'est... Oui, voilà. Alors après, est-ce que ça fera un très bon Avril dans le film? Oui et non.
Il y a des passages, ça se discute. En tout cas, voilà. Le choix de l'acteur, c'est une évidence.
Mais le choix de l'acteur est une évidence. Pour moi, c'est une évidence avec Marthe Villalonga en Madalton aussi. Pareil.
Excellent choix, ça.
Excellent choix, Marthe Villalonga en Madalton. Pareil, si vous connaissez Marthe Villalonga, c'est la mère juive dans Un éléphant, ça trompe énormément.
Normal. Et sa suite, Nous irons tous
et
au paradis.
Et sa suite, Nous irons tous au paradis. Donc en Madalton, ça paraît être aussi une évidence. Et même physiquement, elle colle aussi parfaitement, quoi.
Mais, sorti en décembre 2004, c'est un échec.
Oui, c'est un très bon démarrage. Mm-hmm. C'est 800 000 entrées un peu environ
pour sa première semaine,
ce qui est vraiment très bien.
En même temps, décembre, période de Noël.
Période de Noël,
personnage des enfants.
Personnage de BD qu'on connaît. Donc voilà, si tu vas avoir un film familial, il y a un nom tout trouvé. Donc voilà. Mais comme on dit, qu'est-ce que ça dit quand un film a une excellente entrée et a une gigantesque chute dès sa deuxième semaine? C'est que le bouche-oreille est très mauvais. Et que c'est pas un film qui plaît au public, et c'est rien de le dire.
Ah, juste un petit rappel avant de continuer quand même pour ce qui est du box-office. En France, nous ne parlons pas de recettes, hein, mais du nombre d'entrées. Ouais. Comme vous avez sans doute remarqué depuis le début de l'émission, je parle de millions d'entrées. Hein. Il est donc difficile de dire comme ça si un film est un succès ou un échec en fonction de son budget. C'est pourquoi nous allons nous fier aux informations qu'on a trouvées sur divers sites internet, dont JP Box Office, pour étayer nos arguments. Mais de ce fait, les Dalton, un budget de 26 millions d'euros pour un score de plus de 1,9 million d'entrées. Pour l'instant, par rapport aux autres chiffres que j'avais sortis, c'est quand même un très bon score en millions d'entrées si on ne s'arrête qu'à ça. Mais en question rentabilité, on est seulement à 44% par rapport au budget. Autant dire qu'il s'agit là d'un échec commercial comme on a annoncé.
Bah oui, c'est un film qui a coûté assez cher en fait en plus. Donc c'était un projet assez ambitieux.
Bah raconte-nous justement, ouais,
voilà,
qu'est-ce
qui s'est
passé.
Je raconte un peu l'histoire de la production du film Les Dalton. Je suis obligé de parler d'un film avant de parler Les Dalton. Parce qu'il y a forcément un film qui influencera la sortie des Dalton. Alors d'abord, d'un personnage dont on a parlé tout à l'heure, d'un autre personnage créé par Goscinny, c'est-à-dire Astérix. Alors d'abord par son premier film Astérix contre César, qui fera aussi un énorme carton.
Qui est plus que ça. Hein.
Ouais, presque 10 millions d'entrées, je crois, ce qui est déjà un gros succès, lui 8-9 millions d'entrées, je crois. Mais le carton monumental sera Astérix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, qui fera 14 millions d'entrées, sera le deuxième plus gros succès d'un français à sa sortie. Et donc, à ce moment-là, on se met à se dire qu'adapter des BD à la sauce un peu Canal+, C'était peut-être pas mal. on s'est dit ça dans les productions.
On sait très bien qu'un carton, ça initie une mode. On va dire ça comme ça.
Et donc, on va avoir plusieurs films qui se diront hérités de Cléopâtre. Alors, arrive le nom d'un certain Jamel Debbouze, que vous connaissez déjà pour avoir été dans Mission Cléopâtre, va vouloir racheter les droits de Lucky Luke et va les racheter, sauf que... pour pouvoir faire un film d'Alton.
Ça commence bien.
Pour faire un film d'Alton et dans le but de jouer Joe Dalton. Voilà. Donc, il s'était peut-être dit, bon, on va peut-être pas apparaître dans toutes les BD françaises à l'adaptation de BD. Donc, finalement, il laissera la création à un duo de comiques qu'il connaissait bien pour avoir joué avec eux dans la série H, Eric et Ramzy. Eric et Ramzy au cinéma. Alors, où était Eric et Ramzy au cinéma? Ils avaient fait La Tour en Paradis Infernale, qui avait été un énorme carton, surprise. Et ils étaient en pleine lancée. Ils avaient fait Double Zéro avant, qui n'était pas un film écrit par eux, qui est un film qu'ils regrettent aussi un peu, parce que c'est un pur film de commande qu'ils ont dit avoir accepté pour les mauvaises raisons. Donc, à ce moment-là, en fait, ils se disent, bon, il va falloir qu'on se reprenne en main dans l'écriture et on va écrire un projet dans lequel on va pouvoir en être fiers. Voilà, c'était vraiment ça leur but. Ils sont vraiment y allés avec toute la bonne volonté du monde. Et pour s'associer avec eux, ils vont faire appel à quelqu'un qui à l'époque n'était pas connu, mais qui aujourd'hui l'est, un certain Michel Hazanavicius.
Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, là, comme tu le dis, il était méconnu à l'époque, mais il deviendra plus tard le réalisateur des deux premiers OSS 117, réalisateur français oscarisé avec The Artist.
Voilà, et puis voilà, d'autres films coupés récemment.
Qui est son dernier, oui.
Voilà. Et donc on a Michel Hazanavicius qui arrive et qui avait fait La Classe américaine à ce moment-là. Bon, en fait, il était connu pour ça, pour avoir été auteur aussi pour Les Nuls, donc d'être aussi dans cette ambiance Canal Plus dans l'écriture, quoi. Donc bon, bah nickel, on a ce...
jusque-là tout semble bien aller,
on a ce qu'on voulait au départ. Donc, ils écrivent le scénario dont ils en sont très fiers, ils le disent encore aujourd'hui. Le scénario qu'ils avaient écrit à la base, ils l'aiment vraiment beaucoup. Ils le disent tous les trois, Hazanavicius dit la même chose. Et d'autres diront, Til Schweiger, qui joue Lucky Luke, dira qu'il a accepté le rôle parce que le script l'avait fait beaucoup rire. Tout semblait sur le mieux, mais il faut maintenant choisir un réalisateur. Et Eric et Ramzy proposent naturellement à UGC, qui produit le film, Michel Hazanavicius, parce qu'ils savaient qu'il avait plein d'idées visuelles.
Et comme il a participé au scénario, il connaît le...
Il connaît l'univers, voilà.
Il connaît ce qu'il a à faire.
Donc choix très, à mon sens, choix très bon de la part d'Eric et Ramzy. Voilà, que je trouve très osé, mais UGC dira non. Dans le prétexte qu'il n'avait pas d'expérience dans le cinéma à ce moment-là. Ce qui est un choix très visionnaire, hein, vu que 7 ans plus tard, il aura un Oscar.
Une fois, un choix de producteur dans le sens où, on ne te connaît pas, on va pas te laisser les rênes d'un gros bébé comme ça.
Sauf que à qui ils vont faire appel? Ils vont faire appel à un réalisateur qui s'appelle Philippe Haïm. Et qui est Philippe Haïm? En fait, c'est pas grand-chose non plus à ce moment-là, Philippe Haïm.
Pourquoi lui et pas Hazanavicius?
Et voilà, je t'avoue que j'ai pas trop la réponse à cette question, mais qui est Philippe Haïm à ce moment-là? Philippe Haïm.
Je le connais toujours pas, lui.
En fait, à la base, c'est même pas un réalisateur au départ, c'est un compositeur de musique de film. Il réalise... Donc, je vous le décris, mais Sébastien est mort de rire à ce moment-là, parce que je lui apprends l'info.
Prenez Hazanavicius, vous êtes con, quoi.
Il réalisera quelques films, hein, quand même, avant les Dalton. Il réalisera deux longs-métrages, mais qui font pas grand bruit. Dont un qui est un huis clos. Donc en plus, voilà, quand tu pourrais réaliser un film ambitieux, ça paraît aussi étrange d'avoir pris un film qui a réalisé en seul film quasiment à huis clos.
Parce que Lucky Luke Western, donc les grandes étendues sauvages, tout ça.
Et donc c'est finalement, du coup, Philippe Haïm, contre l'avis de Eric et Ramzy et de Michel Hazanavicius. Mais bon, surtout Eric et Ramzy, je crois qu'ils sont aussi à la production du film. Ils jouent dans le film, enfin là, ils sont quand même très attachés au projet, Eric et Ramzy. Donc contre leur avis, est choisi Philippe Haïm. Ce qu'il faut savoir, alors, je vous dis, l'explication va être un peu longue, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Eric et Ramzy et Michel Hazanavicius avaient déjà une idée visuelle assez précise pour le film. Ils voulaient, malgré que le film est une comédie, ils voulaient créer un décalage en faisant, au contraire, une esthétique très premier degré et très western, et western assez crade, quoi. Des personnages vraiment une ambiance assez crade, une ambiance qui peut être un peu sombre visuellement pour créer un décalage comique avec les situations comiques qu'il y aurait eu. C'était le choix visuel fort qui était qui qu'ils avaient dès le départ dans l'écriture du film. Choix qu'avec Philippe Haïm avait dit qu'il allait respecter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Philippe Haïm avait déjà eu un projet Les Dalton en tête, qu'il avait fait un peu dans son coin. et donc, dans son coin, un peu réécrit le scénario en mélangeant ses idées à lui dans le script de Ricky Ramsey et Azanavicius. Et donc, sur le tournage, Ricky Ramsey découvre ce que a fait Philippe Haïm en arrivant sur le tournage, rien qu'en dévoyant les décors, en voyant ses costumes et décors très, comment dire, fluo. Très, très pété de couleurs, on va dire, très
proche de la bande dessinée quelque part,
mais bien plus loin, je trouve. Non, la BD joue avec les couleurs, mais là on est sur du criard, je trouve.
Mais comparé à ce que tu disais sur l'envie de Eric Ramsey, c'est très loin.
On est très loin
à des années lumière.
Et donc le tournage va très mal se passer. Et ça, ils vont avoir aucune marge de manœuvre artistique, Eric et Ramsey, sur le film. Ça se voit dans le making of aussi. À chaque fois qu'ils leur font une proposition, Philippe Haïm, il les envoie dans les choux à chaque fois. Donc, il va en sortir un film dans lequel ils vont tout simplement pas se retrouver. Et c'est très rigolo parce que quand tu regardes la promo du film par Eric et Ramsey, ils te diront exactement ce qu'ils pensent. Mais de leur script original, en fait, ce qu'ils disent, ils vont te dire c'est la meilleure chose qu'on ait écrite, c'est la chose la plus drôle qu'on ait écrite, on est très fiers de ce script, on a mis beaucoup de choses personnelles, et c'est pas un mensonge vraiment, parce que c'est aujourd'hui ce qu'ils disent du scénario qui a été avorté, qu'on a jamais vraiment vu, quoi. Donc c'est assez rigolo comment ils trouvent une pirouette
pour bien faire la promotion, pour bien vendre le film.
C'est
quoi.
Ça, pour vendre le
pour
film.
Pour faire leur boulot à ce moment-là.
Pour faire leur boulot à ce moment-là,
pour respecter le contrat.
C'est-à-dire pas parler du film, mais parler du scénario original qu'ils avaient écrit. Bon, ce qui reste du coup par contre une publicité mensongère, hein, parce qu'il disait allez voir, c'est voilà, et au final c'est pas vrai.
J'imagine la surprise des spectateurs là, oulala.
Ouais. Alors moi je m'en profite juste pour en faire une petite parenthèse en termes de surprise des spectateurs. Je pense que les plus surpris devaient être les spectateurs allemands. Je vous l'ai dit, celui qui est un acteur allemand, Til Schweiger, qui est un acteur très connu en Allemagne, vraiment. C'est une vraie star en Allemagne, il réalise ses films aussi qui ont un gros succès. Il a remaké un de ses films aux États-Unis par exemple. Il joue Lucky Luke. Du coup, le titre allemand du film, c'est Les Dalton contre Lucky Luke, avec sur l'affiche les jambes de Lucky Luke avec en arrière-fond, du coup, au loin, les Dalton et les jambes de Lucky Luke en premier plan. Voilà, un truc qu'on a déjà vu dans la BD, cette image-là. Et avec marqué Til Schweiger et Lucky Luke en gros en haut de l'affiche. Que fut pas, à mon avis, la mauvaise surprise de la part des spectateurs allemands, que voir que leur acteur qui joue Lucky Luke apparaît, mais max 5 minutes dans tout le film. Mais.
Ouais,
voilà. Qui apparaît surtout à la fin, mais voilà.
Et qui fait pas grand chose. Hein. Where the four winds blow, and it's 5 miles wide. Where a six-gun rules and a man can't hide. A man can play and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride. With a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do, 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 do. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that Lucky Luke will ride again. Lucky Luke. Six gun by his side, Lucky Luke. Here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry. A cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride. With a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you.
Et donc voilà, on va venir du coup peut-être à ce qu'a donné le film en fait, parce que du coup le film a fortement frustré, on va dire, la quasi-totalité de ceux qui ont participé, et donc Philippe Haïm n'aime pas le film parce que il trouve que voilà, il a pas pu faire complètement ce qu'il voulait. Et Éric Judor déteste le film. Mais vraiment, il déteste vraiment le film. C'est-à-dire que tu peux pas. Aujourd'hui, je crois que tu peux pas trouver une interview d'Éric Judor sans qu'il en parle. En fait, c'est-à-dire qu'il en parle quasiment tout le temps.
Et ça doit expliquer le fait qu'il soit en total surjeu pendant toute la durée du
il
film.
Il est insupportable dans le film.
Vraiment insupportable.
Il est insupportable dans
pas
le film.
Drôle,
il sait jamais comment jouer. Il sait jamais comment le jouer. Il en fait une espèce de mec nerveux. Mais nerveux chelou quoi, nerveux mi-pathologique. Enfin, il y a un truc, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose de qui fait nerveux, mais on dirait qu'il fait des crises.
Il y a plusieurs fois dans le film, alors peut-être parce qu'on a à faire un film hybride, donc un montage qui a été fait à la va-vite pour certaines choses. Mais le nombre de fois où tu le vois d'un seul coup à Avrel dire un truc, lui il commence à s'énerver, donc il fait un geste rapide, mais le plan d'après il explique un plan, il est plus calme.
Oui. Il y a plein de fois qu'il fait ça.
Donc il y a ce côté pathologique qui est dû au montage aussi, je pense.
Voilà, bon, on parlait.
Mais pas que. Hein.
Mais tu vois, le fait que ce soit un film d'Eric et Ramzy fait que du coup, c'est pas complètement con, parce qu'il se trouve que Joe et Avrel sont de toute façon, même dès la BD, les personnages de Dalton les plus mis en avant, de toute façon. Donc c'est pas complètement idiot d'avoir fait un appel à un duo, du coup, pour faire les Dalton, pour faire Joe et Avrel, disons. Mais moi, j'ai un problème là-dessus, sur leur personnalité par rapport à la BD. Où Avrel finit par être finalement le plus malin des quatre. Hein. Vraiment, il y a plein de moments où clairement c'est lui qui résout la situation. Alors, c'est un peu ça des fois dans la BD. Avrel, des fois, il résout la situation mais sans trop faire gaffe.
C'est une situation, c'est la solution qui se présente à lui. Malgré lui.
Et il est un peu blasé de Joe, ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que Joe, il le blase aussi, il trouve des fois.
Mais Joe, il a vraiment ce caractère très futé, très dangereux, quoi. Il est très malin, il réfléchit.
Et là, il est complètement con dans la BD, dans le film. C'est très étrange.
Il est horrible. Justement, il est du côté un petit peu de Timon du Roi Lion, où à un moment, c'est plutôt en mode. Ah, je cherche une idée. Avrel qui arrive. Oh, on devrait faire ça. La ferme, Avrel. Oh, j'ai une idée, on devrait faire ça.
Ouais, voilà. Et ouais, c'est ça, c'est Avrel qui souffle les idées. Enfin, il y a le fait qu'il sache qu'il sache ni lire ni écrire et qu'Avrel. Oui, tu vois, enfin, il y a des trucs étranges comme ça. Alors, je pense que peut-être ça avait du sens.
Qu'Avrel lui fasse des vannes.
Oui. Alors, peut-être que ça avait du sens dans le script original. Hein, parce qu'en soi, je suis pas nécessairement contre. Ça dépend comment c'est fait. Mais là, c'est très brouillon. Ça paraît pas justifié vraiment. Pareil, je pense que c'est le résultat aussi d'un scénario hybride qui a été réécrit.
Ça se voit. Ouais. Le film, il y a je sais pas combien d'ans. Tu sais pas quelle ambiance veut avoir le film. Parce qu'on retrouve en effet par moments le côté un peu cradingue avec les gros plans sur certains personnages, les dents un peu pourries.
Voilà, ça j'ai pensé, il y a les dents pourries de Joe Dalton. J'ai trouvé ça même plutôt sympa d'ailleurs.
Et de temps en temps, on est dans un style vraiment cartoonesque. Avec des effets spéciaux des fois à gogo.
Alors je parlais de l'ombre de Lucky Luke par exemple, parce que putain qu'est-ce qu'ils en font des caisses avec l'ombre de Lucky Luke qui devient un personnage de cartoon, c'est-à-dire qu'on voit limite plus l'ombre de Lucky Luke que Lucky Luke, hein, vraiment.
Tes yeux sont plus rivés sur l'ombre, c'est vrai.
C'est vrai, c'est-à-dire que voilà, alors c'est vrai qu'il y a un peu ça dans la BD où il tire plus que son ombre et du coup le personnage de Lucky Luke, l'ombre de Lucky Luke est un peu plus, comment dire, maladroite que lui, ou voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelques moments.
Mais ça reste sort de vignette.
Mais alors là, et quand tu sais que du coup, que le personnage de Lucky Luke apparaît pas beaucoup, son ombre, par contre, à chaque fois qu'on le voit, elle est là, quoi. Enfin, elle est là à faire des gags, je veux dire. Voilà.
C'est ça, c'est Lucky Luke qui va chez Madalton, ça discute à la porte, l'ombre qui est sur le côté en mode un peu. Infiltration, tu sais pas pourquoi, c'est pas très rigolo.
Oui, c'est vrai.
Le personnage de Lucky Luke rentre, la porte est fermée derrière, mais l'ombre, elle va pas vite, donc elle a pas eu le temps de passer la porte, elle se prend la porte.
Oui.
Que des gags.
De on est plus proche de l'ombre de Peter Pan que de l'ombre de Lucky Luke, en fait.
Même, j'ai envie de dire, dans le casting, il y a un truc que je ne comprendrai jamais, c'est Elise et Moon.
Ah alors.
Je ne comprends pas ça.
Alors oui, expliquons, hein, parce que Elise et Moon, en fait, on le voit une première fois. Bah déjà, il joue deux rôles, mais bon, il joue mais bon, à la limite.
Oui,
là,
mais
bon,
là, okay. C'est un gag, comme tu dis, parce que là, il joue un douanier qui est entre la frontière américaine et mexicaine.
Voilà, donc le douanier américain
et le douanier mexicain.
Voilà.
Donc ça passe.
Voilà, bon, sur une scène très gênante, mais ça, on va en parler, parce que c'est une scène où
un peu raciste. Hein.
Voilà, ouais, alors, bon, il faut connaître aussi l'humour d'Eric et Ramsey.
Mais aujourd'hui,
Eric,
ça passerait plus.
Et voilà, Eric, il fait l'accent chinois, ça fait un partie des trucs qui étaient connus de Eric. Voilà. Mais en plus, ça n'a rien à faire, en plus que ce soit un peu raciste. Ça sort du film, parce que du coup, on voit Eric Judor et on voit plus Joe Dalton à ce moment-là, quoi. Et donc voilà, bon, bref, sur une simulade, et on le voit bien après, vers
Elise
la
Moon,
fin. Elise Moon, hein, vers la, oui, c'est vrai, vers la fin du film, pour jouer un personnage assez connu de l'univers de Lucky Luke, qui est le docteur Doxey. Voilà, si vous connaissez l'univers de Lucky Luke, le docteur Doxey, c'est le docteur charlatan qui vend des faux élixirs de santé, etc. Là est là, est joué par Elise Moon, hein, et sert en plus purement de ressort scénaristique, hein, parce qu'il va donner un objet qui va servir à Lucky Luke, qui va servir à la narration, ce qui déjà n'a pas de sens, parce qu'en fait il lui donne un élixir de vérité qui marche,
déjà.
Ce qui n'a pas de sens parce qu'il est en plus présenté dans la scène comme étant un charlatan, donc ça n'a pas de sens, parce que le docteur Doxey, en plus, c'est des fois ces potions font quelque chose, mais elles font pas ce qu'elles sont censées faire, donc c'est là tout le gag. Donc en plus, ils auraient pu travailler le truc, genre ça fait un autre truc qui va les piéger, du coup, enfin, ils auraient pu trouver quelque chose. Bon, bref, ils en font rien, et surtout, bah du coup, il est joué à nouveau par Elise Moon, ouais, et il y a aucune explication.
C'est ça, on va dire que le douanier, c'est un personnage. Voilà, on a Elise Moon qui joue deux personnages bien distincts, qui n'ont aucun lien, et tu sais pas pourquoi.
Alors moi,
ça sort de nulle part.
J'ai un début de réponse en voyant le making-of du film.
Il manquait d'acteurs.
Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette scène-là, ils l'ont écrite dans les loges. C'est Elise Moon et Eric Judor qui improvisent plus ou moins le monologue d'Elise Moon qui fera en Docteur Doxey. Donc, qui écrit les dialogues pendant qu'ils se font en train de se faire maquiller, quoi, et habiller. Donc, ils sont en costume, ils écrivent ça. Donc, je sais pas. Soit le comédien a refusé, d'origine a refusé, soit ils avaient Elise Moon sous la main et ils avaient besoin d'une scène de rajout, et ils ont fait ça, je sais pas. Mais c'était une scène qui n'était pas prévue, qui montre encore une production assez chaotique. Hein, voilà.
Un autre personnage culte qu'on a, je pense, fait les frais, c'est Rentenplan.
Ah!
Parce que Rentenplan, c'est... Je sais même pas ce qu'il fait là. On le voit trois fois dans
ouais,
le film.
Ouais, on voit trois plans.
Donc, on parlait de Lucky Luke pendant 5 minutes, et je crois que ça doit être 2 minutes. Hein.
Après, je salue quand même l'effort d'avoir essayé de faire un Rentenplan en live. Bon, c'est pas réussi.
Oh, c'est...
Mais presque, en vrai.
Vu qu'on a le côté un peu cartoonesque un peu du film, ça passe,
voilà,
justement.
Voilà, surtout que j'ai vu, quand même, en fait, c'est un chien, un vrai chien, qu'ils ont mis un faux museau et qu'ils ont un peu trafiqué en CGI.
Je suis tombé dessus pendant le générique. Pour la petite anecdote, le dresseur de chien était Frank Gastambide.
Ah oui, Frank Gastambide a commencé dresseur de chien. Donc
Frank Gastambide qui était acteur, qui avait créé avec sa troupe Les Caïras.
Les Caïras, qui est aujourd'hui réalisateur, qui fera le film Les Caïras. Enfin, bon, qui fera pas des très bons films. Hein,
Pattaya, Taxi 5.
Taxi 5, puis il en a fait un autre, je crois. Après,
Medellin, je crois.
Oui. Ouais.
Sur Amazon.
Mais il n'y aura que Les Caïras qui aura une jolie réussite critique, hein, Les Caïras, c'est vrai.
Mais voilà pour la petite anecdote, du coup, de Rentenplan. On a un personnage culte qui apparaît trois fois, mais la première fois, c'est pas choquant. C'est une scène en prison. Oui. On voit Rentenplan arriver, donc c'est le chien qui garde les prisonniers. C'est normal. La scène de fin, où on le voit faire un petit commentaire parce que les Dalton sont en train de s'évader, donc on n'est plus au pénitencier, mais on reste quand même avec les gardiens et tout, donc c'est normal. Et on a quand même une scène au milieu du film. Je sais pas ce qu'il fait là, Rentenplan. Il apparaît le temps d'une scène, mais avec Lucky Luke, on ne sait pas d'où vient Rentenplan. Qu'est-ce qu'il fait entre toutes ces scènes. T'as vraiment un moment, Lucky Luke, qui dit « Allez, on y va, Rentenplan. Je crois que je vais le suivre. Et ça s'arrête comme ça. Tu
mets l'imitation de Rantemplant.
Éric Métayer, si tu m'écoutes, je veux bien ton remplaçant.
Ouais, qui est pas mauvais. Alors après, il dit trois phrases, donc c'est difficile de le juger entièrement. Mais en vrai, la voix de Rantemplant.
Ah là, là non, bah, déjà Éric Métayer. Voilà, c'est un très grand doubleur. Mais non, ça, je trouvais déjà, c'est en termes de plan, d'enchaînement, que ce soit scénaristique ou de montage, il n'y a aucun sens à cette apparition. Oui. Il vient de nulle part, il y a...
Alors après, des fois, Rantemplant, il a un peu ça aussi. Hein. Des fois, il a... Des fois, tu vois une case avec Rantemplant, tu sais pas trop pourquoi il est là aussi, ça arrive...
Ouais, mais là, on est quand même dans un film où personnage culte, donc on essaye de tisser quelque chose, mais là, il n'y a rien.
Et après, je crois qu'il manque des scènes, hein, à mon avis, mais ça se voit. Hein, le film, il est très bordélique. Mmh. Il sait pas vraiment où il va. Et voilà, je voudrais préparer quand même d'un truc, parce que, comment dire, moi, je trouve qu'on voit quand même dans le film les premières... bonne volonté, moi je trouve qu'il y a, on voit quand même certaines choses, on voit l'idée d'être envie d'être fidèle à la BD, hein, sur plusieurs points, sur plusieurs gags, sur certaines répliques, sur certaines interprétations, et donc il y a plusieurs moments comme ça, il y a plusieurs quelques petites scènes que je trouverais presque bien faites si on enlevait quelques trucs, je pense à la scène où il met l'élixir de vérité, cette scène où du coup où tout est au ralenti et seul le personnage qui va vite, donc là ici Lucky Luke, va à vitesse normale et fait ce qu'il veut, etc. Donc il fait ça, et ça je trouverais ça presque pas mal et presque cohérent avec le personnage de Lucky Luke qui piégeait Dalton tout en flegme, tu vois, tout ça, mais à chaque fois c'est gâché par quelque chose, donc à chaque fois il y a un truc qui va pas, il y a un truc de trop, voilà, donc mais je vois le potentiel et je vois surtout les bonnes intentions au départ, quoi, et donc c'est un film du coup qui est très frustrant là-dessus.
Je suis pas un fan d'Eric et Ramsey. Il y a peut-être ça aussi, moi, qui fait que le film...
Moi, j'aime beaucoup Eric et Ramsey.
Je ne peux pas. J'ai trouvé le film très lourd en termes d'humour.
Il n'est pas souvent
trop lourdingue. Oui. Mais avec ce côté hybride, justement, qui fait que on a un film qui ressemble à rien, je trouve.
Malgré tout, on voit qu'il y a des bonnes idées. Mais il y a aussi des trucs, je ne sais pas dans quel scénario de départ c'était, mais l'intrigue principale du film tourne autour de quelque chose qui n'a quand même pas bien de sens dans l'univers de Lucky Luke.
Non, parce qu'il faut rappeler que Lucky Luke, voilà, on parlait justement de rencontres avec des personnages historiques, mais c'est ça, Lucky Luke, c'est un univers qui est très terre-à-terre,
réaliste. Très western, en fait.
Réaliste. Voilà,
ça reste une satire, on est dans une satire en fait.
Mais ça ne sort pas de lapin sous un chapeau, c'est le cas de le dire.
Voilà, c'est le cas de le dire parce qu'en fait, on a même presque pas parlé de quoi parle le film en fait. D'ailleurs, ça raconte l'histoire des Dalton, bon, ça, on n'a pas besoin de vous le présenter, vous savez qui sont les Dalton.
Qui s'évadent et qui essayent de braquer une banque ultra moderne.
Voilà. Et donc on leur parle, ils entendent un de leurs co-détenus joué par Cadmeral, en mexicain bien sûr, parce que c'est une coproduction franco-espagnole, mais fallait appeler un français pour jouer un mexicain, voilà, mais donc bref.
Camoulox.
On aura Jean Benguigui après, c'est pas beaucoup mieux, mais qui fera un mexicain, donc ils entendent parler d'un chapeau magique qui maîtriserait... les armes, qui contrôlerait les armes en fait,
et qui servirait de bouclier de,
c'est ça,
de
bouclier d'armes, voilà, ça, en fait ça a une sorte d'anti-pare-balles et qui est détenu par un grand bandit dont j'ai oublié le nom, donc ils vont réussir à choper le chapeau parce que Joe du coup va en profiter pour être le plus grand bandit de l'Ouest aussi, voilà. Et ce chapeau est vraiment magique.
C'est pas un subterfuge, une légende mexicaine pour le coup.
C'est ça, parce que jusqu'à là, pourquoi pas, tu vois, jusqu'à là, on a des fausses pistes de fantastique dans Lucky Luke. Ça arrive dans plusieurs tomes.
L'un qui m'avait le plus marqué, c'était le ranch maudit où t'avais affaire. Lucky Luke avait affaire à un ranch qui était maudit, donc histoire de fantôme, tout ce que tu veux. Mais c'était une histoire à la Scooby-Doo où c'était quelqu'un qui créait des subterfuges, justement.
Bah oui. Et ça a toujours été comme ça, l'idée de Lucky Luke. Et là, non, le chapeau est vraiment magique, ce qui est une première énorme déception quand tu vois ça, en plus du fait que le chapeau est vraiment très moche. Le chapeau, c'est
un sombrero avec un crâne.
Avec un crâne, et quand il protège les balles, le crâne sort du chapeau et va dans tous les sens.
Et t'as les acteurs qui essayent de le suivre du regard, mais
ça passe pas du tout. C'est très irrespectueux à l'univers du Kiluk, quoi. Quand je me rappelle, avant de revoir le film, je me disais, oui, le film est nul, mais il a quand même des bonnes intentions. Et je sais pas de qui vient cette mauvaise attention là, mais en tout cas, non, il n'y a pas que des bonnes idées au départ, parce qu'il est quand même central au scénario, ce chapeau magique, quoi.
Le MacGuffin, hein.
Bah oui. Donc, alors, est-ce que ça a complètement été changé? Je sais pas. Alors, je me dis, bon, je veux bien qu'il ait réécrit le scénario, mais qu'il ait tout réécrit à ce point-là. Donc, je sais pas. Alors, peut-être que c'était bien mieux fait et que des fois, on a eu des trahisons à des œuvres, mais que ça leur empêchait pas d'être bon quand même. Donc, pourquoi pas. Mais déjà, moi, ce choix de départ me semble déjà, en fait, bizarre, quoi. Donc, j'ai envie de croire Eric Judor et Michel Zavellicius quand ils disent que leur script était absolument génial. Mais c'est vrai que quand tu regardes Sister Chapeau, il y a forcément quelque chose que tu es obligé de remettre en question, quoi. Voilà.
L'échec de ce film, qu'est-ce qu'il a entraîné ?
Il a entraîné pas mal de tournants dans la carrière de pas mal des protagonistes. Alors, on a parlé du réalisateur, hein, Philippe Haïm.
Qui est toujours aussi inconnu. Mais...
Oui, bah, qui sera son dernier long métrage au cinéma, en fait. Et il se convertira plus dans la série télé. Alors, pas dans de la merde non plus, hein. Il supervisera notamment la saison 2 de la série Braco.
C'est
quand même un gros.
Son CV reprend de l'ampleur là d'un seul coup.
Voilà, alors il y aura plus le cinéma, mais il fera des trucs. Il continuera dans le monde de la série télé. Voilà, mais ça lui a fermé les portes du cinéma. Sinon, en autre conséquence, alors on va parler d'Eric et Ramsey. Ça, une sacrée conséquence en vrai, parce que ça va être un point assez culminant dans leur carrière. Ils vont un peu dire plus jamais ça. L'idée de se faire dénaturer leur script, c'est un truc qui va les marquer. Et donc, va y avoir deux films qui sont un peu en réponse aux Dalton, qui vont suivre Eric et Ramsey. Le premier, ça sera Steak.
De
Quentin Dupieux, parce que voilà, il se trouve, ce qu'il faut savoir aussi avant, c'est qu'ils avaient essayé de faire un projet avorté avec Michel Gondry, qui a dû avorter le projet parce qu'on l'a appelé pour faire Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Du coup, je lui en veux pas. Et donc, il y a ce projet avorté là. Donc, après, ils voudront faire ça avec Michel Zavellicius. Donc, ils étaient en recherche d'un auteur assez affirmé, avec une patte comique assez affirmée. Et c'est Michel Gondry qui leur parlera de Quentin Dupieux. Et ce sera son premier long métrage, Steak, qui sera un. Alors, ce sera pas au niveau du succès commercial, ce sera pas ça qui aidera, parce que ce sera aussi un énorme four. Parce que c'est vrai que c'est un énorme four qui, aujourd'hui, est bien plus considéré parce que. On ne savait pas que la carrière de Quentin Dupieux se ressemblerait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, au moment où Steak sort.
On repense à la sortie récente de Yannick.
Voilà, par exemple. Donc il y a cette idée-là, et il y a aussi l'idée de ne plus se faire dénaturer leur propre script, donc arrivera Seul Tout aussi 3 ans plus tard, que moi j'aime bien personnellement. Mais ce sera aussi compliqué parce qu'ils se disputeront sur le tournage, Eric et Ramsey, ça emmènera à leur séparation pendant 2 ans. Ils ne se parleront plus du tout. On ne se rend même plus la parole pendant 2 ans. Voilà. Donc les Dalton amèneront finalement la séparation temporaire d'Eric et Ramsey. Quelque part, donc tournant malheureux de carrière pour eux, hein. Il y a un avant et un après les Dalton dans la carrière d'Eric et Ramsey, très clairement.
Ouais, parce qu'ils se réuniront, mais qu'une fois devant la caméra, ça serait pour la suite de la Tour Montparnasse infernale.
Oui, et puis
la Tour de contrôle.
La Tour de contrôle, ils se retrouveront avant dans la série Platane aussi, d'Eric Judor, dont à partir de la saison, un peu la saison 1 et surtout la saison 2, dans lequel ils font déjà un faux tour de contrôle, Tour Montparnasse Infernale 2 dans la série, parce que la série c'est une série où ils jouent son propre rôle. Voilà, c'est une série que j'adore, hein, je vous la conseille pour ceux qui aiment bien Rick Judor. Voilà.
Mais sur ce, il est temps de vous quitter, chers amis, de vous laisser un peu sur votre faim avec ce cliffhanger radiophonique. Mais promis, nous revenons la semaine prochaine pour continuer notre aventure du cowboy solitaire et de ses dernières mais peu glorieuses adaptations. Ciao.